Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans l'apérophonie de ce lundi 28 juin. Et ce soir, on sort un peu de la cuvette grenobloise pour rejoindre la Normandie, une terre pas si désagréable que ça, quoiqu'on parle beaucoup du mauvais temps. Mais aujourd'hui, on accueille quelqu'un de rayonnant. Je veux parler de Julie Mouchel. Salut Julie.
Salut Pierre.
Tu vas bien?
Mais super, tu parlais de cuvette grenobloise, on peut aussi parler de la cuvette rouennaise. Hein.
Exactement, vu le, ouais. Vu le taux de pluviométrie, je crois que c'est,
ouais.
C'est approprié, voilà. Et
ouais.
Donc, bah, je te présente un peu, après tu pourras rebondir, mais... C'est
ouais.
juste pour dire que effectivement donc on a à peu près le même âge et t'as vraiment une personnalité artistique à multiples facettes quoi, voilà, tu t'exprimes dans pas mal de domaines, le cinéma, le théâtre, et tu viens de sortir un roman aux éditions Velvet, donc
ouais.
On est là pour en parler ce soir notamment et aussi de tes autres projets évidemment, donc voilà, tu viens de sortir Ventre Creux. Ça s'appelle.
Ouais, c'est ça.
Comment tu pourrais nous en parler? D'où vient l'idée?
Alors Ventre Creux, donc c'est une autofiction qui raconte l'enfance d'une petite fille en Normandie dans les années 90. Donc une petite fille qui s'appelle Etsy et en gros je me suis basée sur des choses que j'avais pu vivre dans mon enfance. Alors le livre je l'ai écrit en 2017 du coup c'est ça, et puis je l'ai retravaillé et retravaillé jusqu'à ce qu'il soit édité là cette année.
Oui voilà, et puis on va se poser un peu aussi, dans mon enthousiasme j'ai oublié un peu de te demander comment tu t'étais installé là pour nous recevoir dans ton chez-toi
Alors je suis dans mon chez-moi au Lila, en fait. Avant j'habitais à Paris, donc là je suis en banlieue parisienne, dans la maison de mon amoureux. Je suis à la table de la cuisine avec des pois de senteur devant moi, ce sont mes fleurs préférées, et j'ai vu sur la cour, on a une espèce de jardin suspendu avec de la passiflore, plein de plantes, du chèvrefeuille, du lilas, du jasmin. Donc c'est très odorant et j'adore, voilà.
Ben voilà, du coup c'est parfait, t'es en mode cosy pour voilà, qu'on discute et qu'on échange autour
ouais.
de toutes ces belles choses.
Ouais.
Et voilà, donc c'était l'instant Marie Richeux pour ceux qui aiment et qui connaissent sur France Culture. J'aime beaucoup cette émission et je crois que t'as fait un peu de radio, donc je sais pas si t'as eu l'occasion d'écouter ça, mais je te conseille.
Non,
au cas où.
Ouais, non, je suis allée regarder, j'ai vu qu'elle était éditée par une nana que j'aime bien, Sabine Vesquizer, mais j'ai jamais rien lu d'elle, parce qu'elle écrit aussi apparemment.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et ça m'a donné envie de lire ses bouquins, tu vois, donc et voilà. Elle a une émission aussi, c'est ça?
C'est ça, moi je voulais parler de l'émission, mais effectivement, elle écrit... Et l'émission, c'est Par les temps qui courent, et en fait, c'est une émission d'actualité culturelle où elle reçoit différentes personnalités. Elle a toujours un regard assez comme ça, frais et original, et très, très humain, très vivant, donc c'est super agréable, quoi.
Ah, chouette, c'est bien, tu fais sa pub, je vais direct aller écouter.
et sinon, pour rebondir sur, justement, la question de l'écriture, parce que... Tu disais que Marie Richeux écrivait, mais toi, du coup, tu t'es lancé là-dedans aussi.
Ouais,
Et voilà, à quoi ça correspondait, ce besoin chez toi? Parce qu'effectivement, quand on lit le bouquin, on se rend compte que, comme tu le disais, on imagine qu'il y a une grande part d'inspiration personnelle et que c'est très intime. Donc, dans quoi tu es allé puiser et à quoi ça correspond, cette écriture pour toi?
Eh ben... Comment dire, nécessité de d'écrire ce bouquin, elle est en moi depuis des années, mais je pense que je manquais de distance, tu vois, comme le matériau vraiment de mon écriture, c'est mon vécu. Il fallait, je pense, que je fasse un travail sur moi. J'ai fait une analyse, une psychanalyse pendant 10 ans, et je pense que sans ça, en fait, j'aurais pas pu me mettre. Il a fallu ce travail-là en amont, disons. En fait, la question que je me posais, enfin, je voulais écrire un bouquin en interrogeant mon enfance pour comprendre un peu l'adulte que j'étais devenue. Et je pense que, donc là j'ai 33 ans, je pense qu'entre mes 20 et mes 30 ans, j'ai emmagasiné des choses, je suis revenue sur des moments de ma vie, voilà, de façon assez inconsciente. Et puis, quand je me suis mise à écrire, en fait, j'ai arrêté l'analyse. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu me mettre au travail, parce que je pouvais pas faire les deux en même temps, tu vois, créer et analyser. Il fallait que je me jette quelque part dans l'écriture. Et voilà.
Non, mais c'est intéressant la façon dont tu parles, parce que je suis pas là pour ramener mon expérience personnelle, mais finalement, pourquoi pas? Parce que moi aussi, en ce moment, je suis en analyse et on sent justement que tous les éléments que tu ramènes dans ton texte, donc tu vas nous lire des extraits là dans l'émission, mais pour que les auditeurs se rendent compte, mais tu ramènes vraiment beaucoup de vécu et que ces éléments-là, ils sont vus par le prisme, comme tu le disais tout à l'heure, de ce regard enfantin au départ et qui petit à petit, comme ça... prendre la distance et de la maturité, mais toujours avec une vraie sensibilité. Et je pense que pour ça, ben voilà, il faut les deux, quoi. Il faut justement le travail que tu décrivais d'analyse, et puis aussi à un moment donné écrire avec ta sensibilité.
Donc justement, d'ailleurs, on peut penser que les autofictions, parce que c'est une autofiction, que ça peut être à visée thérapeutique, etc. Et moi, je pense, enfin, dans mon cas, en fait, j'ai dû faire une thérapie pour écrire ce bouquin qui n'est pas du tout un bouquin thérapeutique, tu vois. J'ai aimé l'écrire, mais c'était du travail et il fallait avant que j'ai fait cette thérapie pour pouvoir me mettre à écrire, quoi. Ouais.
Bah, écoute, je pense que ce que tu dis, c'est important parce que malheureusement, et je vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour se faire des ennemis, mais il y a beaucoup de gens qui prennent la plume en exutoire et comme ça pour soulager leur conscience et avec un côté un peu parfois narcissique. Et ce que je voulais dire justement là, ce que je tenais à dire et pour te faire réagir aussi, c'est que quelque part, t'arrives complètement à échapper à ce piège narcissique et de te centrer sur toi. Tout en étant vraiment dans l'authenticité, quoi. Donc, je trouve que c'est très juste et ça demande un vrai boulot. Et comme tu dis, même si ça t'a sûrement fait du bien d'écrire, on sent que c'était pas le but premier, quoi.
Non, ben en fait, le but premier, c'était la recherche de la forme, tu vois. Je voulais travailler autour d'une forme. Je savais pas trop quelle forme, mais il y a cette voix, la voix de l'héroïne, qui s'est imposée à moi. Hein. Je pensais pas que j'allais rester sur l'enfance, que j'allais à ce point travailler la langue de l'héroïne, mais la musicalité du texte, évidemment, surtout que moi à la base j'écris des chansons, donc voilà, pour moi c'était vraiment un travail, quoi.
Bah ouais, puis ce serait bien, là, on a beaucoup parlé, mais ce serait pas mal, tu vas nous lire aussi un extrait, mais effectivement, il y a ce point de vue assez frais de la petite fille qui finalement a quand même un vécu, on peut le dire, plutôt douloureux, mais qui toujours arrive à avoir ce regard poétique. Je te propose d'introduire un premier extrait. On va raconter comment la petite fille s'aperçoit que sa mère est en train de flirter à la piscine.
On arrive à la pisciculture. Le ciel normand s'est couvert, mais Chandelle porte toujours son grand chapeau de paille. Elle s'installe le long du bassin intérieur, sur du gazon synthétique décoratif, dans un transat en plastique blanc, et se tartine d'huile à la noix de coco. Même s'il n'y a pas de soleil. Ça sent fort les tropiques. Elle se baigne pas. Moi, je me baigne. Je joue à la sirène, comme d'habitude. Je voudrais bien être une sirène pour de vrai. Ça fait longtemps que j'y pense. C'est dommage cette histoire de queue, les vraies sirènes en ont. Il faudrait que je réfléchisse à m'en fabriquer une. De temps en temps, je jette un coup d'œil à ma mère pour vérifier qu'elle est là et que tout se passe bien pour elle. Ça lui arrive de partir et de m'oublier. D'habitude, elle reste seule pour bronzer et ne parle à personne, mais là, un monsieur très bronzé s'est allongé sur le transat à côté d'elle. Il lui a apporté un café du Tropico, la cafétéria au-dessus du bassin extérieur. Ma mère rit, et lui aussi. Il paraît plus jeune qu'elle, malgré son crâne d'œuf. Il porte un slip rouge et une chaîne en or, le genre qui plaît aux dames de la piscine. Ma mère fait sa belle. C'est rare que je la vois parler avec un monsieur de cette façon-là. Parfois, elle parle aux dames de l'accueil, mais sinon, à personne, et encore moins à des messieurs. Elle prend sa pose de Brigitte, comme chez nous quand elle fait le défilé des maillots de bain. J'entends pas ce qu'ils disent, mais le monsieur regarde le maillot de bain de ma mère avec grand intérêt. Je me rapproche. Ma mère demande au monsieur pourquoi il parle avec un accent comme ça et d'où il vient. Il répond qu'il s'appelle Émir et qu'il vient de Tanger. Je prends part à la conversation. Je dis « Je sais pas où c'est Tanger, mais ça me fait penser à un oranger » et il répond « Tu as raison, les orangers poussent partout là-bas. » Ensuite, je demande si c'est loin Tanger et il me dit que oui. Le reste de l'après-midi, j'ai continué à jouer à la sirène sans queue et Chandelle a continué son affaire. Elle ne m'a appelé qu'à la fermeture pour dire au revoir à Émir et aller se rhabiller au vestiaire. On passe par les douches où je me frotte par-dessus mon maillot de bain avec une savonnette qui traîne là, pendant que Chandelle est complètement sur un nuage. On sort de la piscine. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Il se met à pleuvoir. On court vers le parking, mais quelqu'un fait signe au loin. Émir est là, qui brandit dans le ciel pluvieux le chapeau de paille de ma mère. Ah, je savais bien qu'on avait oublié un truc. Elle court récupérer son chapeau et moi je cours derrière elle. Merci Émir pour le chapeau. On le dépose quelque part ? J'en ai un peu marre, j'ai envie de le déposer nulle part. Non merci, j'habite pas loin, je suis étudiant à la cité universitaire. Ouf, bon débarras. Ma mère glousse sans raison. Alors, on est presque voisins? Il faudra qu'on se fasse un couscous. Je la tire par le bras et on se carapate. Je vois pas comment elle pourrait faire un couscous si elle sait pas faire cuire des nouilles, un œuf ou des haricots verts. Sur le chemin, elle me demande comment je trouve cet émir. Je réponds, il a l'air gentil, mais il est laid comme un pou. J'exagère exprès. Il a des tablettes de chocolat et un slip à la mode. Son bronzage lui va bien. Mais je préfère Papou, même s'il ressemble à un flan et qu'il a le corps tout blanc.
C'est génial, en fait, de t'entendre lire, parce que, déjà, tu vois, quand on le lit, j'allais dire, dans sa tête,
ouais.
on ressent vachement le côté hyper frais, hyper un peu brut de décoffrage et tout, tu vois.
Ouais.
Mais positif, dans le sens positif, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Le regard un peu comme ça, sans concession de l'enfant, et puis qui a aucune illusion finalement sur les manigances des adultes.
Ouais, elle est très lucide, ouais.
Ouais, et qui quelque part, là on est au tout début du bouquin, mais sans rien dévoiler aux auditeurs, mais elle a déjà quasiment tout compris, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Elle a une espèce d'intuition en fait. Elle a... Puis il y a aussi le fait qu'elle veuille rester avec sa mère. Elle a un rapport un peu exclusif avec sa mère avant cette rencontre avec le beau-père, quoi.
Ouais, on l'a pas dit, mais effectivement, le début, c'est ma mère, c'est la meilleure, etc. Donc,
oui, voilà, elle idéalise vachement. Sa mère, en fait, elle a besoin, je pense, de l'idéaliser pour l'aimer, tu vois. Ouais.
Ouais, parce qu'en plus, sans rien dévoiler, parce que de toute façon, on s'en rend compte dès le départ, mais disons que comme mère idéale, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vu mieux, quoi.
Ouais, c'est clair, on a vu mieux, ouais. Ouais, ouais.
Donc, en tout cas, ce que je retiens, moi, de cette lecture, et on peut prévenir le lecteur, mais sans lui faire peur, il y a évidemment des moments assez douloureux, assez difficiles, etc. Mais c'est jamais plombant, jamais... Et surtout, il y a un rythme qui se maintient. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu du travail que tu as pu faire au niveau du style
Alors, comment dire? Déjà, tu disais qu'il y avait des moments plombants, mais que ça restait léger. J'ai vraiment travaillé sur des contrepoints. tout au long de l'écriture, j'ai cherché de la lumière, en fait. Et je pense que si j'avais pas cherché ces contrepoints, on aurait été dans un texte chiant et pathétique et tout ce que tu veux de relou, enfin, qui donne pas envie de lire un bouquin. Voilà, j'ai vraiment cherché de la lumière. je peux paraître un peu illuminée, mais j'ai cherché de la lumière et de la légèreté. et sur le travail, sur la musicalité, et ben, en fait, quand j'écrivais, je faisais un peu comme Flaubert et son gueuloir. Je lisais à voix haute et j'écrivais, je disais mon texte, en fait. Et ça m'a vachement aidé sur le retravail, sur la réécriture, sur la musicalité, le fait de faire beaucoup de phrases courtes qui illustrent un peu le côté. Enfin, qui nous tiennent en haleine. Elle a vraiment, comment dire, elle essaye de garder la tête hors de l'eau. Et puis, mais donc voilà, ces phrases courtes m'y aidaient. Et puis les jeux de langage. En fait, au début, j'en ai fait quelques-uns et à chaque, enfin après, c'est venu, ça venait et ça s'arrêtait plus. Il y avait vraiment, ça existait presque de façon indépendante de moi, tu vois. Donc je les ai tous retranscrits, les jeux de langage qui constituent un peu l'imaginaire poétique d'Etty, la façon dont elle regarde le monde et voilà quoi.
Et puis aussi dans lequel je pense quelque part les lecteurs pourront aussi reconnaître un peu tout ce qui tient de l'imaginaire de l'enfance, quoi, parce que chaque enfant se fait un peu son monde à lui, avec ses mots imaginaires. Par exemple, il y a le fameux tronc creux dans lequel elle va adresser ses prières pour espérer que la situation s'améliore. Je pense que, enfin, ça, c'est une très belle idée, parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent se retrouver d'adultes qui peuvent retrouver justement la part d'enfance dans cette envie comme ça de
ce rapport à la nature aussi, ça, ouais, se retrouver dans la nature. Ouais. Elle a un côté un peu rousseauiste aussi, hein.
Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Bon, justement, on va lire un deuxième extrait, si tu veux bien. Justement pour illustrer un peu le côté aller-retour entre gravité et légèreté, parce que voilà, le mélange jeton, et justement là on est dans un passage plus léger. Alors, est-ce que tu peux nous en parler avant de le lire, peut-être?
De ce passage-là, eh ben, on reste à la piscine dans ce passage-là, puisque Etty, qui a un peu grandi, je crois qu'elle a 12 ans, 11 ans peut-être dans ce passage, elle retrouve sa copine Milou à la piscine, donc à la piscine de Mont-Saint-Aignan, et Milou lui fait part de sa première expérience, de son premier flirt, en fait. et donc voilà, Milou lui dit qu'elle s'est fait doigter, et Etty ne sait pas ce que ça veut dire, et donc elle est un peu interloquée, et c'est ce qui va constituer son éveil, en fait, à l'érotisme. Cette histoire, ça se passe à la piscine, enfin, j'en dévoile pas plus, je vais le lire, mais...
Eh ben, voilà. On te laisse nous lire ça, justement.
Ok.
C'est les vacances d'été, et Milou vient de rentrer des Sables d'Olonne. Elle est partie une semaine avec ses parents. Je l'accompagne acheter des tampons. Elle a ses règles, alors que moi, je suis embourbée dans l'enfance. Ça te dit qu'on prenne un pot au coquet? J'ai jamais pris un pot. Pour moi, c'est vraiment un truc d'adulte, hyper excitant. On prend le vélo toutes les deux, moi en danseuse, elle sur la selle, en alternance, et on file au coquet. Terrasse du bar de la piscine. Des gens nagent, on les regarde, des garçons partout. Milou a les jambes dorées, c'est presque indécent. Bon, faut que je te dise, il m'est arrivé un truc de fou au camping des Sables d'Olonne. Elle mange une langue acidulée, moi un schtroumpf. Cet été, je me suis fait un mec, au camping. Je manque de peu de m'étouffer avec mon schtroumpf. La serveuse dépose sur la table deux pagots orange banane. Je suis abasourdie. Ah ouais? Non. Tu l'as fait? Elle rigole. Ouais, enfin à moitié, quoi. Silence. J'essaie de me représenter ce que c'est faire à moitié l'amour. Je regarde un nageur. Il a de bien grandes palmes pour nager à la piscine municipale. Le maître nageur devrait lui dire, il a l'air de gêner tout le monde. Son dos est tracé en V. Bah, je me suis fait doigter, en fait, si tu veux. Je sais pas quoi dire, je sais pas ce que c'est se faire doigter. Mon ignorance me panique, mais je fais comme si je savais. Et du coup, t'étais amoureuse? Milou sirote son pagot. Bah non, je me suis juste fait doigter, quoi. Et c'était bien? Pas mal. C'était où? Dans ma tente, au camping. Je bois ma dernière gorgée de pagot en fixant le grand plongeoir, un peu perplexe. Au troisième niveau, un garçon fait la bombe et pique vers le bassin. J'ai envie de plonger. Milou, ça te dit qu'on aille chercher nos maillots de bain et qu'on se baigne un coup? Elle pioche un bon bec au hasard. Bah non, je t'ai dit, j'ai mes règles. Super, ça me fait de belles jambes, elle est chiante avec ses règles. Je lui lâche, bon, faut que je parte, j'ai un truc à faire chez moi, puis je la plante là avec son pagot. Sur le chemin, je repense à cette histoire de doigts et de camping. À 11 ans, je devrais savoir ces trucs-là. Faire l'amour, évidemment, je connais, en fin de nom. Emballer aussi, en fin de nom. Mais doigter, j'avais jamais entendu.
Ben voilà, je trouve que c'est parfait, parce que vraiment, en plus, ce passage à la piscine, là, il arrive de mémoire dans une période de plus en plus compliquée pour Etsy.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment un rayon de soleil, quoi.
Ouais, c'est un rayon de soleil. En fait, si tu veux, c'est Milou, c'est sa camarade. C'est grâce à elle que Kitty va s'extirper un peu de sa famille, de sa solitude aussi pesante. Et puis, ça va l'ouvrir aux rencontres, en fait. Elle va s'en sortir, je pense, avec ses rencontres hors de son premier cercle.
Ouais, puis il y a des très belles pages, sans raconter la fin du bouquin, mais quand elle est au lycée, quand elle va comme ça, les premières soirées où elle joue de la guitare, j'ai failli dire tu joues de la guitare, tu vois, donc voilà, mais je vais pas être trop indiscret, mais en tout cas.
Non, mais tu sais, y a quand même. Ce qui est assez drôle, c'est que au fur et à mesure de l'écriture, plus j'ai écrit, plus j'apportais de la fiction, non seulement dans la forme, mais dans les faits qui étaient un peu translatés, tu vois, je sais pas comment on peut dire, un peu déplacés.
Oui, oui, oui.
Et donc du coup, il y a des trucs, ça colle pas non plus au réel dans les faits, c'est pas exactement ça, quoi.
D'accord.
C'est beaucoup plus intéressant, du coup. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une langue juste, tu vois. C'était la juste impression de ces souvenirs-là, retranscrire ce que ça avait laissé comme impression en moi, quoi.
Ben, j'ai l'impression que c'est, à propos d'impression, justement, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi. Et on a, justement, ce qui est plaisant, c'est que, et je trouve que c'est vraiment pas facile à faire, quel que soit l'âge d'Etsy. La façon qu'elle a de s'exprimer est crédible, si tu veux, par rapport aux expériences qu'elle vit et à l'âge qu'elle a à ce moment-là. Donc c'est que t'as vraiment réussi à te projeter ouais. Comme ça dans son vécu, et donc ça c'est une vraie réussite. Je propose qu'on s'arrête là, malheureusement, sur ton bouquin, parce qu'on a aussi d'autres aspects de ta vie et de tes activités à évoquer.
Ouais.
Et notamment tout ce que tu as pu faire en tant que musicienne et chanteuse. Et là, je te propose qu'on écoute un morceau donc de I Do Not Love qui s'appelle Triste Tropique sur lequel tu chantes.
Et ok.
Et donc, tu nous en parles après.
Ça marche.
Passer maintenant.
Donc juste pour raccrocher les wagons avec nos auditeurs, on est bien sur Campus Grenoble, vous êtes le lundi 28 juin sur le 90.8 et on est avec Julie Mouchel, donc une jeune femme aux multiples talents. On vient d'évoquer son roman qui vient de sortir aux éditions Velvet et là on vient de passer un morceau donc, qui est sorti de mémoire en 2015 chez Beko, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est Triste Tropique, donc j'ai fait un featuring sur ce morceau, avec un, je sais pas si je raconte l'histoire du coup.
Ah mais si, bien sûr.
Ouais, c'est assez marrant, c'est assez émouvant de réécouter ce morceau, parce que je venais de lancer mon projet Presque l'amour, donc mon projet musical. Voilà mon duo, et en fait Dominique du label Beko m'a appelé en me disant ouais, il y a un super mec du Massachusetts, Grégory Miller, qui a un projet qui s'appelle I Do Not Love, et ce serait super chouette que vous fassiez un featuring ensemble, je pense que vos univers peuvent se rencontrer. Et donc en fait Grégory et moi on s'est jamais vus, tu vois, il a enregistré dans le Massachusetts les instrus, moi j'ai fait dans ma chambre parisienne le texte, les paroles, et on s'est envoyé les fichiers, envoyé et renvoyé les fichiers. Et je trouve que... Alors lui, je crois qu'il a arrêté la musique, mais je trouve que nos univers matchent, tu vois, il y a une espèce de mélancolie, un truc à la fois doux, enfin doux, amer.
Ouais, bah c'est un peu ce que j'avais noté, ouais. Si tu veux, ouais, c'est ça. Moi, en plus, j'ai un gros côté fleur bleue, donc là, ça parle... Ça parle vachement à ça, quoi, parce que c'est, pour moi, c'est de la synth-pop, mais symphonique, tu vois, un peu, quoi.
Merci.
C'est vraiment grandiloquent, mais dans le bon sens du terme, quoi, pas du tout. Pour moi, c'est, là, pour le coup, c'est une qualité, parce que l'instru est génial, et puis ta voix dessus, alors après, c'est peut-être mes oreilles, mais j'arrive pas à bien distinguer forcément toutes les paroles, mais en tout cas, ta voix marche très bien, et... Et donc, si jamais tu veux nous faire passer les textes pour qu'on les mette en annexe à l'émission, pourquoi pas, si tu les as toujours sous la main.
Avec plaisir, comme ça vous pourrez faire un karaoké, je vais vous envoyer la chanson.
Voilà. Bon, et donc justement, si on continuait un peu en revenant en arrière du coup, parce que finalement ça fait un petit moment maintenant, mais... sur ton parcours musical, comment c'est arrivé Presque l'amour?
Presque l'amour, j'ai fait de la musique à l'époque avec un musicien super, compositeur qui s'appelle Antoine Grognard. On était à Paris tous les deux. Et puis on a eu, il y a eu cette rencontre, et moi en fait je suis allée faire ma formation de comédienne à Rouen, et lui il a quitté Paris pour Montpellier, et en fait je faisais des Rouen-Montpellier pour aller enregistrer mes chansons avec lui, qui faisait les prods, et on n'avait pas du tout en tête de monter un projet en fait au départ, on a juste enregistré les chansons, on les a mises sur SoundCloud, et on a été entre guillemets repérés comme ça par les In Rock, et puis après on a commencé les concerts, etc. Et moi les textes, donc en fait à la base les chansons existent en guitare voix et je les chantais seule, hein, mais c'est grâce à lui que c'est devenu qu'elles sont devenues ce qu'elles sont, quoi. Il m'a fait vraiment un écrin hyper beau pour toutes les chansons, et puis les textes qui évoquent toujours un peu, enfin je parle toujours un peu de la même chose en fait, la solitude, la nostalgie des êtres, la difficulté à se rencontrer, les amours déçus, c'est ce qui me parle, c'est ce dont j'ai envie de parler, quoi.
Je me souviens de mémoire, parce que là je l'ai pas retrouvé, j'aurais dû te demander le titre, mais en 2014 je crois tu avais fait un morceau avec dans le refrain ça disait ton petit cœur, je sais plus. C'est très vague.
Ton petit cœur,
Ouais, c'est ça, ouais, vite fait, bien fait, exact.
Ouais.
Exact, ouais. Je me souvenais plus, mais voilà, en tout cas, c'est un des morceaux que donc les auditeurs pourront retrouver en tapant Presque l'amour, vite fait, bien fait. Merci d'avoir réagi à ma citation approximative.
Ton petit cœur, on adore.
C'est ça, voilà. Et on va aller assez vite parce qu'on a passé beaucoup de temps du coup à parler de ton livre, mais c'était l'essentiel. Je voulais aussi mentionner le fait que voilà, t'as été aussi DJ à plusieurs reprises, je crois. Donc, peut-être qu'on peut parler rapidement, et ça rejoint aussi ce que t'as fait dans Presque l'amour, de tes influences musicales. On peut peut-être en dire un mot?
Mes influences musicales, j'en ai énormément. Et c'est drôle parce que à certaines périodes de ma vie, je vais écouter de la synth-pop, de l'électronica, parfois de la techno, et il y a d'autres périodes de la chanson. Et donc dans les mixtapes, donc j'ai arrêté hein, de mixer à cause du confinement, mais ça faisait pas très longtemps que je mixais. Avant le confinement, j'ai fait je sais pas 5 ou 6, 7, et j'ai fait deux mixtapes. Et en fait, je commençais vraiment à mixer des textes. Par exemple, j'ai fait un son où je cite du Marguerite Duras, le marin de Gibraltar, sur, je crois, deux bruits, enfin un son assez assez vénère. Et j'aime bien mixer les deux, tu vois, ce genre de choses-là.
D'accord, donc des influences très variées, et qu'est-ce que...
J'aime bien amener en fait
Vas-y.
la littérature dans la musique, tu vois, enfin dans mes sets en fait, c'est ce que j'aime bien faire, que les gens de temps en temps ouvrent une oreille et entendent du Marguerite Duras sur du Black Madonna ou des de bruit, je trouve ça chouette quoi.
Excellent, bah oui, des bons samples. Et chez nous, figure-toi que... Tu connais peut-être le fameux Éric Piolle, notre maire écolo. Et on a un collectif électro qui a samplé sa déclaration un peu chauvine sur le tacos, comme quoi le tacos était grenoblois, et ils l'ont samplé au début d'un mix, tu vois. Donc, comme...
J'adore.
Bah, je te passerai le son, voilà. Mais
Ouais, avec plaisir.
effectivement, les samples, c'est on peut se faire plaisir avec dans la musique électronique, c'est une bonne
Ben
chose. Et
ouais.
voilà, donc là je te propose qu'on passe assez vite, on va peut-être pas on renvoie nos auditeurs à ta performance inoubliable pour Castelbajac et Petit Bateau. On va
Inoubliable ou oubliable à tout prix, je ne sais pas.
Ouais,
C'est un truc que
voilà.
j'assume pas.
On les laissera décider, et donc
Ouais.
on va peut-être pas le passer, parce que je préfère
Non, on
qu'on
n'a peut-être pas le temps, mais.
ouais, je préfère qu'on parle aussi de ta vie de comédienne et d'actrice, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi de ce côté-là. Et voilà, qu'est-ce que tu peux, parce que finalement après tes études supérieures, t'as aussi en parallèle mener un parcours dans le théâtre. Et donc, je voulais rapidement un peu, toi, quelle est ta vision du bon metteur en scène et tes expériences sur scène les plus réussies? Comment tu les décrirais?
Donc le théâtre, vaste monde. J'ai eu pas mal d'expériences. En fait, assez décevante. En fait, au niveau des metteurs en scène, il y a parfois des metteurs en scène qui ne sont pas des directeurs d'acteurs. En fait, un metteur en scène qui est juste un metteur en scène, il va te placer sur un plateau, il va te dire il faut que tu ailles du point A au point B. Et en fait, toi, à l'intérieur, tu vas devoir nourrir tout ça, mais un directeur d'acteur, qui soit aussi metteur en scène, il va vraiment t'aider à trouver ton rôle de l'intérieur, tu vois, pour l'investir et du coup à. Comment dire, à ne pas uniquement à jouer quoi en fait, à être investi. Mais
Ouais.
ça peut paraître un peu technique hein,
Non,
ce que je te
mais
raconte.
je comprends très bien. Après, juste, j'avais une question. Est-ce que ça, c'est vraiment des questions de personnalité du metteur en scène, ou plutôt de différence entre les écritures théâtrales et le cinéma, par exemple? À quoi ça tient, selon
Bah,
toi?
ça tient à la fois du point de vue du metteur en scène, à la fois de comment fonctionne l'acteur au plateau, tu vois. Est-ce que il va plus trouver la justesse du personnage par le corps, par les gestes, ou alors est-ce qu'il va plus trouver la justesse du personnage par la psychologie, ou parfois le personnage n'a pas de psychologie. Et que dire de plus, je me suis perdue dans ce
Non,
que je te racontais.
non, mais toi, en tant que comédienne, comment tu te situes en fait dans tout ça? T'es plutôt à l'aise avec avec le corps et l'espace, ou plutôt...
Moi, j'ai vraiment un truc avec la voix, tu vois, comment dire, pour trouver le côté organique d'un personnage, moi, ça va vraiment passer par... Enfin, comment dire, c'est ma voix qui va me connecter à mon corps, tu vois, parce que sinon, j'ai tendance à vachement cérébraliser les choses, à vachement intellectualiser, et une fois que j'ai la respiration du personnage, que j'ai la... Enfin, comment dire, je change pas de voix hein, quand je joue un rôle au théâtre... Je change pas spécifiquement de voix, mais disons que comment le personnage respire, voilà, ça m'aide vachement.
Et ben du coup, c'est une transition toute trouvée, bravo, avec ton expérience du doublage, parce que
ouais.
Parce que la voix, on peut dire que j'invente rien, j'imagine, en disant que c'est essentiel pour doubler. Et donc,
ouais.
Qu'est-ce que tu, là encore, comment tu décrirais ça à quelqu'un, parce que j'imagine que les gens sont assez curieux de savoir comment ça se passe, le doublage, parce que effectivement les films en VF envahissent les écrans, les séries aussi, et donc
ouais.
Comment ça marche, quoi.
Tu veux dire une séance de doublage ou...
Oui, voilà, comment...
Ouais.
On n'a plus beaucoup de temps, hein, je te dis tout de
ouais,
suite.
Ouais. Ok, bah, je vais faire vite, mais en gros, donc déjà, moi, pour moi, le doublage, c'est une vraie passion, c'est une vraie révélation, parce que le fait d'être derrière un micro, un peu à l'abri, tu vois, un peu dans l'ombre, et de jouer un personnage, je trouve ça super. Après, concernant les voix, pour le coup, en doublage, tu modifies un peu ta voix. Moi, je fais un peu de dessin animé, j'ai doublé un Bernard l'Ermite il y a 15 jours, tu vois, donc j'ai vraiment, ma voix, elle bouge beaucoup, je peux un jour jouer une avocate de 50 ans, le lendemain jouer une adolescente de 15, et puis le surlendemain jouer un animal, quoi. Donc voilà, à la différence du théâtre, t'arrives en plateau, tu ne connais pas ton texte, évidemment, tu ne sais pas ce sur quoi tu vas travailler, donc il faut que... En quelques secondes, tu vois ta scène, il faut que tu chopes le contexte, quel genre de film ou de série c'est, est-ce que c'est comédie, drame, parce que tu vas pas jouer de la même façon suivant le genre. Et puis après, en gros, tu regardes la boucle une fois ou deux, et ensuite tu y vas, quoi. Donc ça va extrêmement vite. C'est un peu comme, moi je suis assez impatiente en fait dans la vie et je trouve ça plutôt chouette. C'est un peu comme comme une prise au cinéma, enfin, tu vois, tu dois tout donner tout de suite, t'as pas le temps de te chauffer, en fait. Il faut que t'arrives déjà au taquet, et voilà. Et t'as le résultat, ce que j'aime aussi, c'est que t'as le résultat tout de suite, t'entends tout de suite, et c'est assez satisfaisant. Et puis, surtout, comme t'es dans l'ombre, tu peux, enfin, moi, en fait, j'ai un certain physique, je peux être cantonnée à un certain genre de rôle, tu vois, j'ai un physique plutôt classique, et là, comme j'ai une voix qui me permet de bouger beaucoup, je peux incarner des personnages que j'incarnerais pas à l'écran. Donc c'est super.
Donc ça te donne plus de marge, et quand tu parlais comme ça de... Il y a un côté, on parlait de piscine tout à l'heure, donc c'est vraiment le grand bassin et le plongeon, quoi. Donc voilà, il faut se lancer,
bah,
quoi.
Ça, mais... D'ailleurs, pour moi, le théâtre, enfin, le fait de jouer, en fait c'est, on peut le comparer au fait de plonger. Il faut s'oublier soi-même, il faut tout oublier et s'engager. C'est pas sauter, c'est plonger en conscience.
Ouais.
Enfin, ça peut être un peu mystique, hein, ce que j'en
raconte. Non, mais vas-y.
Non, mais c'est vraiment, il faut avoir un point de vue, un engagement. Il faut faire ça en conscience, en fait. Tu peux pas aller. Enfin, il faut s'engager pour jouer, en fait. C'est bateau, mais enfin, bateau reste dans la métaphore de l'eau.
Mais oui, bah, c'est ce que tu disais par rapport au doublage. Il faut capter rapidement les enjeux d'une scène et le positionnement de ton personnage, tout ça. Enfin.
Bah ouais, parce qu'en fait tu travailles avec un DA, un directeur artistique. Donc un DA, c'est un peu le metteur en scène du doublage, tu vois, il va te diriger. Et donc il y a des DA comme au théâtre qui n'auront pas le temps ou pas l'envie ou qui ne verront pas la nécessité de t'aider à nourrir ton personnage. Donc parfois, suivant le DA, t'es plus ou moins aidé, enfin, donc voilà.
Ok, et bah écoute, Julie, je m'excuse, on a été un peu vite sur certains aspects de ton parcours et de ton travail. J'espère qu'on aura bien mis en avant donc ce livre qui sort aux éditions Velvet qui est sorti le 10 juin. Et donc,
Ouais.
vous pouvez tous commander sur Amazon ou dans votre librairie préférée. Vraiment, c'est tout à fait recommandé. Et c'est pas parce que c'est en Normandie que vous ne comprendrez pas les enjeux. Non, la Normandie n'est pas une contrée si exotique que ça.
Non, ça peut parler à tout le monde, ça peut parler à tous les enfants qu'on a en nous, quoi, à l'enfant qu'on a en nous, en fait.
Exactement. Et bah écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Et je pense que tu as tout un tas de potentiel encore à faire fructifier. Donc tous mes vœux t'accompagnent et merci d'avoir été à mon micro ce soir.
Merci à toi, Pierre. À bientôt. Ciao.
Salut.
Mais c'était quoi? L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie!
C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90,8!
Ah, sur Campus Grenoble 90,8!
Oui!